Théologie biblique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 17 juin 85.
Comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, j'ai envie aujourd'hui, non pas de continuer la lecture de tous les habits d'Aaron. C'est intéressant, c'est pas du tout parce que c'est pas intéressant, mais c'est parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Du reste, c'est un peu, vous verrez bien, vous n'avez qu'à le voir, c'est un peu la reprise de tout ce qu'on avait vu précédemment, avec l'application à Aaron. Alors, c'est quand même très intéressant à ce point de vue-là, c'est de voir comment, de fait, Aaron qui a été pris en flagrant délit de désobéissance, cependant, reste celui qui est l'envoyé particulier de Dieu et de Moïse. Il reste sûrement quelque chose de très important à voir là. Alors, est-ce que ça fait partie, vous voyez, de tout ce que nous avons essayé de comprendre dans l'Exode? Je vous ai dit au début, l'Exode, c'est le livre de la purification, c'est le livre de la miséricorde, c'est le livre de la médiation. C'est tout ça qui est impliqué dans l'Exode, et c'est pour ça que c'est le livre par excellence de la miséricorde, je crois. Le grand livre de la miséricorde. Si on essaie de comprendre l'Exode, c'est la première fois où on voit le mystère de la miséricorde de Dieu, dit d'une façon très étonnante. J'ai vu la misère de mon peuple. C'est pour ça que la théologie de la libération, dans le sens très très fort, c'est vraiment la miséricorde qui nous permet de comprendre ce que c'est que la théologie de la libération. Et dans cette miséricorde, ce rôle très particulier de Moïse, que nous avons essayé de voir, que vous pourrez regarder de très près quand vous le relisez, essayez de bien comprendre ce que représente Moïse, c'est quand même une très très grande figure. Et une figure qui a joué un rôle si important pour le peuple d'Israël, j'allais presque dire trop importante. Vous voyez dans quel sens ? Où il y a comme une espèce d'enflure qui s'est faite sur la loi et sur Moïse. C'est très curieux, quand vous parlez à des rabbins, on voit très bien que c'est toujours la référence à Moïse, plus qu'à Abraham, Isaac et Jacob. Nous, dans la perspective chrétienne, dans la perspective des pères de l'Église, saint Augustin, des grands théologiens de l'Ancien Testament, on est plus incliné à regarder les pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Moïse joue un rôle très important, sauver des eaux, et celui que Dieu a choisi pour être celui qui assume la culture égyptienne en vue d'être un législateur. Vous voyez toute la différence entre la purification du cœur d'Abraham et la purification du cœur de Moïse. Abraham, il lui est demandé à 75 ans de tout quitter. Vocation tardive auquel le père exerce une taille extraordinaire. Tout quitter. Avec Sarah, un beau cheptel, c'est bien évident, parce qu'on ne déracine pas les vieux arbres sans employer beaucoup de terre avec eux. Alors c'est évident qu'il y a tout le cheptel. Puis il y a Lot, mais au bout d'un certain temps, ça ne s'entend plus avec Lot, il faut qu'il parte seul. Parce que deux foyers ensemble, c'est impossible. La vie religieuse permet qu'on puisse mettre des Abraham et des Lot ensemble, mais il ne faut surtout pas que les femmes soient là. Vous voyez, Sarah et Jo, ça ne va plus du tout. Et c'est vrai, la vie commune religieuse, c'est tout à fait autre chose que des foyers liés entre eux. Et c'est très significatif de voir que, de fait, ça ne peut pas s'entendre. Au point de départ, oui, mais très vite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. C'est un exemple merveilleux de charité fraternelle, tu vois. Parce que ça fait comprendre que plutôt que de se disputer, il vaut mieux se respecter. Même s'il n'y a pas beaucoup de coopération. Parce que quand il y a une trop grande, s'il y a trop souvent des disputes, la vérité de la charité fraternelle consiste à chacun aller de son côté. C'est se respecter. Et on voit bien ça, parce qu'au moment où Lot va recevoir un peu la punition de Dieu, Abraham plaide la cause de Lot, donc il est resté dans son cœur. Et c'est bien un acte de charité qu'il a fait. C'est pas du tout une espèce d'énervement, non, c'est un acte de charité. La purification du cœur d'Abraham est tout à fait différente de la purification du cœur de Moïse. Moïse, Dieu n'a jamais demandé de quitter toute la culture égyptienne. Il a puisé à toute la culture égyptienne. Et il a assumé toute cette culture égyptienne parce qu'il fallait qu'il joue le rôle de législateur. Pour jouer ce rôle de législateur, mais il était nécessaire qu'il ait une intelligence bien formée. Tandis qu'Abraham, c'est un père. Un père, on lui demande avant tout l'amour et l'autorité du père. Mais pas tellement, hein, d'être législateur. Un père n'est pas législateur. Tandis que Moïse est législateur. C'est pour ça qu'on pourrait dire, voyez, qu'avec Moïse, nous voyons comment Dieu peut assumer dans la foi toute une culture. C'est bien ce qu'il nous est montré. Et tout le livre de l'Exode montre bien que les purifications qui existent, hein. Les purifications sont très fortes dans l'Exode. Il faut aller au désert. Et c'est une grande purification au point de vue du désert. Cette purification, elle est pour le peuple d'Israël, mais elle est aussi pour Moïse, forcément. Moïse ne pourrait pas diriger le peuple d'Israël si lui-même n'était pas purifié de la même purification. Et dans cette purification, c'est Dieu qui intervient directement. L'éducation, la manière dont Dieu éduque le peuple d'Israël à travers le désert, en lui donnant la manne, en lui donnant les cailles, en lui donnant l'eau. Et puis le très grand moment, nous avons essayé de voir le très grand moment où de fait la loi a été donnée. Alors pourquoi ce moment de prévarication, ce moment de fausse, ce peuple purifié par le désert, n'est pas totalement purifié, puisqu'il n'arrive pas à vivre vraiment pleinement d'adoration. Et il crée le veau d'or. Et alors cette colère de Moïse, cette reprise de tout, et ensuite les applications, et c'est ça que nous voyons maintenant, mais là je vais aller vite parce que je voudrais dire un petit mot des autres livres, vous comprenez, il y en a. Il ne faut jamais séparer l'Exode, le Lévitique, les Nombres et puis le Deutéronome. Nous n'avons vu qu'un. J'avais hésité entre l'Exode et le Deutéronome. J'ai pris l'Exode parce que c'est peut-être le livre premier de la miséricorde. Je crois qu'il faut toujours voir ensemble. Et si pendant les vacances, vous pouvez continuer, parce que c'est bon et c'est nécessaire de continuer une lecture cursive de toute l'Écriture. Avoir lu dans sa vie plusieurs fois toute l'Écriture depuis le début jusqu'à la fin. Pas seulement une lecture le soir, hein, comme on lirait un roman. Non, non, une lecture la plume à la main en ayant les grands thèmes. Hein, je vous ai déjà dit, les grands thèmes. Et pendant le temps des vacances, puisque pendant le temps de l'année scolaire, on n'a pas beaucoup de temps, pendant le temps des vacances, ceux qui vont à Montmorin, par exemple, c'est merveilleux de pouvoir prendre une heure tous les jours ou deux heures tous les jours de lecture de l'Écriture. Pour s'imprégner, ça, on s'imprègne de l'Écriture. Hein, et c'est nécessaire. On doit être des hommes de l'Écriture. Hein, et notre intelligence doit s'imprégner. C'est très bien d'étudier Aristote. C'est merveilleux d'arriver. Mais attention, hein, il ne faut pas qu'Aristote passe avant la parole de Dieu. Il faut que Aristote soit au service de la parole de Dieu et qu'il nous rende intelligents par rapport à la parole de Dieu. Alors, c'est important je vous ai déjà dit, quand vous lisez toute l'écriture, faites-le au point de vue théologie spirituelle, théologie mystique, peu importe comment vous l'appelez, mais essayez de comprendre à travers toute l'écriture la grande révélation des attributs divins. La grande révélation de tous les attributs divins. La Genèse, alors dans la Genèse, les 11 premiers chapitres de la Genèse, puis l'histoire des patriarches, puis l'Exode. Essayez de comprendre comment, alors on continue après, hein, d'essayer de comprendre comment chacun des livres de l'Ancien Testament a son originalité, c'est pas des répétitions. Et donc nous révèle un attribut de Dieu. Il faut le découvrir en le lisant attentivement. Et de cette manière-là, vous voyez, la grande théologie des attributs de Dieu, telle que nous la donne saint Thomas, prend une espèce de grandeur, de beauté. Et vous voyez bien que l'ordre qui nous est donné dans l'Écriture n'est pas du tout l'ordre que prend saint Thomas. Les 11 premiers chapitres de la Genèse nous montrent la toute-puissance du Créateur. Puis vous avez les pères. Les pères, c'est l'alliance dans la fécondité. Avec Moïse, c'est pas du tout l'alliance dans la fécondité. La loi, c'est jamais très fécond. La loi, c'est l'aspect de l'intelligence donnée à Dieu. De l'intelligence pratique, oui. Comprenez bien, c'est... C'est la théologie telle qu'elle peut exister dans l'Ancien Testament. C'est pas, il y aura les livres de la sagesse. C'est l'intelligence pratique. C'est la prudence, éclairée par la foi. Et ceci dans la grande lumière de la miséricorde. Et c'est dans la grande lumière de la miséricorde qu'on doit le comprendre. Et je crois que si l'Exode nous montre ce qu'est le médiateur, Moïse comme médiateur, l'Exode nous fait comprendre la manière dont Dieu, dans sa miséricorde, porte son peuple. C'est ça qui est si grand. Malgré toutes les fragilités. Alors vous avez des deux grandes fragilités dans l'Exode, hein, qui sont mises en parallèle et que nous devons comprendre en parallèle pour mieux comprendre ce que c'est que la miséricorde, puisque c'est cette miséricorde qu'on doit comprendre. Ces deux grandes misères. Première misère, la misère du peuple d'Israël chez les Égyptiens. C'est une très grande misère. Ils sont réduits à peu de choses, traités comme des esclaves. Tout un aspect de l'esclavage. Ils sont traités comme des esclaves. Ils n'ont pas de liberté absolue, pas de liberté religieuse. Et au point de vue de la famille, on voit qu'elle est très maltraitée, la famille. Puisque tous les fils, les enfants mâles, doivent être jetés dans le Nil. On ne garde que les filles en vue d'un esclavage, très habile comme moi. Et Moïse est sauvé des eaux. Donc, la première misère du peuple d'Israël, et c'est la première grande vision qu'on a de la miséricorde de Dieu. J'ai vu la misère de mon peuple, chapitre 3, c'est très très beau ça. C'est une chose qu'on doit souvent relire quand on regarde la miséricorde de Dieu. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris. On voit comment Dieu est proche de son peuple. Puis la seconde grande misère, c'est au moment du veau d'or. C'est une misère encore plus terrible, celle-là. Parce que c'est, au point de vue de la fidélité, un manque terrible. Après toutes les miséricordes de Dieu, d'avoir fait sortir son peuple du joug du Pharaon, après l'avoir nourri, après avoir montré cette sollicitude si grande, il y a quelque chose que le peuple d'Israël ne peut pas supporter l'absence de Moïse. À l'intérieur de ces miséricordes, cette absence devient insupportable. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, revendique, première revendication d'ordre religieuse. Des revendications sans syndicat spirituel, hein, sans syndicat religieux, mais il revendique directement. Il crie le veau d'or, et Aaron et de mèche. C'est extraordinaire, ça. Ce qui prouve que ça ne devait pas être si simple à comprendre. C'était assez subtil. Je crois qu'on peut dire ça. Si ça avait été très simple, Aaron n'aurait pas été séduit. Pourquoi certains théologiens aujourd'hui peuvent être séduits par certaines théologies de la libération? Comme Aaron. On n'a pas le droit de les juger trop vite. Hein, parce que Aaron a été séduit, il a été pris, il a cru que c'était ce qu'il fallait faire. Qu'il fallait suivre. Vous savez, il y a deux manières d'être à la tête d'un pays. Ou on est devant, ou on est derrière. C'est les deux manières. On est le serfile ou on est devant. Quand on est devant, on indique la route. Quand on est derrière, on suit. Et Aaron suit. Il suit ce que le peuple d'Israël revendique. Il était sûrement sincère. Il n'a pas manqué de fidélité à Aaron. Il a suivi. S'il avait manqué de fidélité, je crois qu'il ne serait pas resté à la fin. Et nous voyons cette purification que Dieu va faire par miséricorde. Cette purification, la grande purification, la seconde purification, il y a deux purifications. Purification du désert et la purification qui se fait ensuite, qui est assez violente, hein, où Dieu purifie tous ceux qui ont été infidèles. Et la reprise de tout, à l'intérieur même du désert, la reprise de tout, pour que l'alliance puisse s'établir d'une façon plus pure. Là, voyez, toujours, la miséricorde ne supprime pas la justice. La miséricorde implique des purifications. Mais la miséricorde est victorieuse de toutes les faiblesses. Et nous voyons ces deux aspects. Et ça, ce serait intéressant à bien voir. Nous avons essayé de le voir, mais ce serait intéressant de préciser au point de vue théologique. Ces deux manières dont Dieu fait la miséricorde à son peuple. Par rapport au joug du Pharaon, par rapport à l'infidélité qui consiste à créer le veau d'or. Parce qu'on peut dire que c'est les deux grandes misères. Hein, les deux grandes misères du peuple. Une misère temporelle et une misère spirituelle. La misère temporelle, elle est visible, c'est la misère qu'ils ont connue auprès du Pharaon, comme esclaves. Mais une misère beaucoup plus profonde, c'est la misère de l'infidélité par rapport à l'adoration. Et de vouloir créer ce veau d'or. Et elle est beaucoup plus subtile. Puisqu'on pourrait dire que la misère par rapport au Pharaon, ils sont tous d'accord. Il y a une unanimité. Le peuple d'Israël fait un, là. Il n'y a pas eu de division. Ils ont tous été saisis par Moïse. Ils ont tous obéi. Ils ont tous passé la mer Rouge. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la seconde misère, on voit là des divisions. On voit là la fragilité de ce peuple qui pourtant a été purifié par le désert. La purification du désert ne suffit pas. Pour regarder, la pureté du cœur, et la pureté du cœur, c'est premièrement l'adoration. Notre cœur est pur lorsqu'il adore Dieu. Si notre cœur n'adore plus Dieu, il n'en connaît pas la pureté. Et cette purification, là, on la sent très bien. Et alors là, on voit comment Dieu punit son peuple. Et le punit sévèrement. Et comment on reprend tout avec cette alliance, avec l'étape de la loi donnée une seconde fois, et on va vers quelque chose de nouveau. C'est un peuple liturgique. Après cette purification, c'est la grande liturgie qui nous est montrée. Peuple religieux qui a la loi et peuple avec une grande liturgie qui va commencer la grande liturgie de l'Ancien Testament. Parce qu'on ne peut pas nier que la liturgie de l'Ancien Testament a quelque chose de grand. Il y a une grandeur dans la liturgie de l'Ancien Testament qui est assez unique. Hein. La liturgie de la Nouvelle Alliance n'a pas du tout la même splendeur. C'est pour ça que les bons exégètes disent que l'épître aux Hébreux est donnée sans doute pour les prêtres qui suivent le Christ, qui avaient connu la liturgie de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et qui, à un moment donné, trouvent que la liturgie chrétienne est beaucoup plus pauvre. Oui, réforme liturgique, la nouvelle liturgie, beaucoup plus pauvre. D'où la tentation de revenir à l'ancienne. C'est toujours la même tentation de mettre l'absolu au niveau liturgique. La liturgie exprime quelque chose, mais ce n'est pas l'absolu. L'absolu de la vie chrétienne, c'est la vie théologale, de foi, d'espérance et d'amour. Ce n'est pas la liturgie. Il faut que la liturgie soit belle, soit grande, qu'elle exprime ce que nous vivons intérieurement. Et la liturgie chrétienne est une liturgie d'amour. Ce n'est pas une liturgie premièrement de la vertu de religion. On comprend très bien ça. Alors c'est intéressant de voir cette naissance de la liturgie. Vous voyez, c'est la seconde partie de l'Exode, c'est la fin de l'Exode. On peut dire qu'on voit la naissance de la liturgie. C'est ce que nous avons essayé de voir déjà la dernière fois, les deux dernières fois. Bon, vous avez vu que c'est un petit peu fastidieux parce qu'on regarde uniquement des détails liturgiques d'habits, de lieux. Mais c'est important de voir que la liturgie demande toutes ces précisions. Et que là, c'est Dieu lui-même qui dicte ça par l'intermédiaire de Moïse. Donc, vous voyez, c'est pour essayer de comprendre ce grand mouvement qui nous est montré, qui nous est révélé, ces deux grandes miséricordes de Dieu. Et que cette miséricorde de Dieu va se manifester par le médiateur, Moïse, et par la création d'autres médiateurs, Aaron et la tribu des prêtres, qui sont des médiateurs dans l'ordre de l'amour. Mais Moïse, c'est le grand médiateur dans l'ordre de la législation. Alors c'est très curieux, et là aussi c'est très intéressant à voir, comment se fait-il que dans l'Ancienne Alliance, le médiateur par excellence, soit au niveau de la loi, Aaron, qui, la face toujours été fidèle, mais qui demeure, malgré ça, on demeure et on souligne, hein. On va voir quelques textes pour bien voir qu'on souligne. Bon, c'est la médiation sacerdotale. Puis nous verrons ensuite une troisième médiation qui va apparaître, la médiation du roi. Et une quatrième médiation qui va apparaître, le point de vue des prophètes. L'année prochaine, on sera de voir la médiation royale. Toujours pour essayer de comprendre le médiateur, hein. C'est vrai, il y a toute une théologie des médiateurs qu'on doit essayer de comprendre dans l'Ancien Testament. C'est dit admirablement. Dans la Nouvelle Alliance, tout ça est dit avec une rapidité extraordinaire, tellement rapidement que souvent on ne voit pas très très bien. Ou on oublie, on ne voit pas très bien. Alors là, on voit cette médiation sacerdotale avec tout le point de vue de la liturgie, tout le développement de la liturgie, tout le développement du culte. Donc la vertu de religion que vous... Alors vous voyez... Moïse, c'est évidemment celui qui est source de cette autre médiation. La médiation sacerdotale est donc soumise à la médiation de la loi. Elle est soumise, ça on ne peut pas nier. Elle est soumise à la médiation de la loi. La médiation royale, il va y avoir d'abord les juges. Les juges... niveau de la loi. Ça, c'est bien évident. Les juges n'ont pas d'autre fonction particulière que d'appliquer la loi. c'est très intéressant de voir la médiation des juges. La médiation des juges ne suffit plus. Le peuple d'Israël réclame un roi. Le roi, il est au-dessus de la loi. C'est propre du roi. Autrement, il ne serait pas un roi. Il serait tout simplement président de la République. N'est-ce pas ? Mais il n'est pas roi, il ne serait pas roi. Parce que s'il est soumis à la loi, il n'est pas. Le propre du roi, c'est d'être au-dessus. C'est la personne qui dépasse le point de vue de la loi. Eh bien, on voit très bien que, de fait, Dieu ne veut pas ça. Il faut que ce soit Dieu qui soit directement le roi du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël réclame le roi. Pourquoi il réclame ? À cause de la gloire. On est tenté de la gloire. On louche sur les autres peuples. Les autres peuples ont des rois à la tête de leur armée et ils veulent la gloire. Alors, on voit très bien que c'est quelque chose de très particulier. Mais comme Dieu ne boude jamais, ça c'est le propre de Dieu, Dieu ne boude jamais, parce que Dieu aurait pu très bien dire, tu veux un roi, eh bien on va voir. Et on s'aperçoit qu'en effet, dès que la royauté arrive, les trois qui représentent les trois premiers rois, Saül, David, Salomon, cette médiation royale, chaque fois échoue. Elle n'aboutit pas. C'est l'autorité, la sanctification de l'autorité. Pour les juges, c'est très mélangé. C'est du reste un passage extrêmement intéressant pour les juges. C'est très très varié, c'est extrêmement intéressant. Parce que les juges aussi ont autorité, mais les juges ont une autorité qui dépend de la loi. Ils sont les représentants vivants de la loi, les juges. Tandis que le roi a une autorité personnelle. C'est très curieux de voir que cette médiation royale, qui aboutit normalement à la gloire, échoue. Et puis nous avons quelque chose qui est donné gratuitement. Ça, c'est la gratuité. Gratuité des prophètes. Puis ensuite, je ne développe pas le reste, mais ce serait très intéressant de voir justement comment progressivement, il suffit de regarder tous les livres successivement, mais au point de vue de l'économie divine, vous voyez bien que c'est la loi qui domine le point de vue sacerdotal. Pourquoi ? Parce que le point de vue sacerdotal lévitique, c'est celui du culte, c'est celui de la vertu de religion. C'est la vertu de religion. La vertu de religion est soumise à la loi. Vous avez les juges qui doivent appliquer la loi, et puis le roi qui veut être plus. Ça n'a pas une tête de plus, ça ne va pas. Puis vous avez les prophètes, et les prophètes qui rappellent, non pas la loi, mais l'intériorité de la loi. C'est-à-dire que l'alliance est une alliance d'époux. C'est le rôle propre du prophète. Du prophète osé au cantique des cantiques, comme du perfeuillet. Tilly du perfeuillet, qui est très bien fait là-dessus. Donc c'est bien ça, propre de l'alliance des prophètes. C'est d'annoncer que cette alliance, elle est intérieure. Les prophètes sont pour l'intériorité. La loi n'éduque pas premièrement l'intériorité. Ça, c'est sûr, ça n'éduque pas premièrement l'intériorité. On peut très bien appliquer la loi formellement et pas éduquer son cœur. D'où le pharisaïsme. Et la loi engendre le pharisaïsme. Et les prophètes sont anti-pharisiens. Ils dénoncent le pharisaïsme. Et ils dénoncent que c'est l'intériorité qu'il faut, que c'est cela que Dieu regarde, l'alliance de l'époux et de l'épouse, qui est au cœur, qui ne s'oppose pas du tout avec la loi. La loi est finalisée par ça. Ce qui m'intéresse, vous voyez, point de vue pour nous, point de vue théologique, c'est de voir comment Jésus reprend tout. Et il reprend tout par le point de vue sacerdotal. Il reprend tout par le point de vue sacerdotal, le point de vue royal et le point de vue prophétique. Ça, il faut y réfléchir beaucoup, il faut essayer de soi-même, hein, parce que je crois que c'est ça que doit donner profondément ce contact avec l'ancienne alliance. C'est d'essayer de comprendre comment Dieu a voulu, d'une manière imparfaite, dans une purification lente, nous montrer ces diverses médiations, ces divers types d'alliances, la loi, la médiation, donc du législateur par la loi, la médiation sacerdotale, la médiation royale, la médiation prophétique. Et comment, dans l'ancienne alliance, le point de vue sacerdotal n'est pas du tout l'absolu, n'est pas premier. La royauté, d'une certaine manière, passe devant. Les prophètes passent devant. Sacerdotal n'est pas du tout l'absolu, n'est pas premier. La royauté, d'une certaine manière, passe devant. Les prophètes passent devant. Ce qui caractérise la nouvelle alliance, c'est l'aspect sacerdotal. Un royaume de prêtres. Vous voyez la force que ça prend quand on dit ça, quand dans l'Écriture il est dit, dans l'Apocalypse et dans Saint Pierre, le Christ fait un royaume de prêtres. Il ne dit pas un royaume de prophètes. Non, un royaume de prêtres. Pour nous montrer que tout est ordonné à cela. Et alors, la royauté du prêtre va nous faire comprendre l'aspect prophétique de l'époux et de l'épouse. L'intériorité de cette manière-là. Bon, ceci, c'est pour vous synthétiser un petit peu ce que nous avons vu et comprendre un peu dans l'ensemble. Il faut toujours essayer d'avoir cette grande vision de l'économie divine, puisque Vatican II nous demande de reprendre toute la théologie dans une perspective d'économie divine, c'est-à-dire la manière dont Dieu conduit l'homme, la manière dont Dieu conduit son peuple. Et en conduisant son peuple, il conduit l'humanité. Et en conduisant l'Église, il conduit l'humanité. Cette chose, c'est toujours la médiation. Le peuple d'Israël joue le rôle d'être médiateur à l'égard du monde entier, mais d'une médiation tout à fait différente que l'Église. Deux types de médiation différentes, mais c'est quand même toujours le petit reste choisi pour tout l'ensemble. C'est très mystérieux, ça. Ça reste très très mystérieux comme conduite de Dieu. C'est là où on doit se poser des questions. Comment ça se fait que Dieu, qui est le créateur du monde entier, de tous les hommes, veut, par un petit peuple choisi, élu, éclairer tous les hommes? Et comment Dieu veut, par une petite église, éclairer tous les hommes et les conduire au salut? Il y a le pendant des deux. Le peuple d'Israël est de l'ordre de la disposition et l'Église est de l'ordre de la propriété, si on prend un langage philosophique. Le Christ étant celui qui donne la signification à tout ce qui est avant et tout ce qui est après. Tout le temps le voir comme ça au point de vue économie divine. Il ne faut jamais l'oublier. Au point de vue de l'économie divine, il y a la grande montée vers le Christ. Celui qui est annoncé, et puis ensuite, c'est tout est relatif au Christ. C'est l'Église. L'Église est relative au Christ. Tandis qu'ici, le peuple d'Israël est en montée, il prépare. Et le peuple d'Israël, aussi bien que l'Église, porte toute l'humanité. Comment nous ne comprenons pas ? Porte toute l'humanité. Donc, joue un rôle de médiateur. Mais voyez que la médiation du peuple d'Israël à l'égard des hommes et la médiation de l'Église à l'égard des hommes n'est pas la même. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Intéressant à essayer de comprendre pour saisir l'économie divine, pour saisir ce que représente cette économie divine. Parce que Si nous lisons l'Ancienne Alliance, c'est pour ça, c'est pour mieux comprendre l'Église. C'est pour mieux comprendre le Christ. C'est pour mieux comprendre cette conduite de sagesse de Dieu à l'égard du peuple d'Israël et à l'égard du mystère de l'Église. Il faut bien voir les deux. On pourrait dire, vous voyez, le peuple d'Israël est la famille. L'Église est plus famille que peuple. C'est bien, Vatican II emploie tout le temps le peuple. C'est très vrai, c'est le peuple, mais elle est plus famille. C'est très curieux et on comprend très bien parce que la loi est dépassée. Or, dès que la loi est dépassée, on n'est plus en face d'un peuple. On est en face d'une famille. Tandis que quand la loi domine, on est en face d'un peuple. Ce qui constitue un peuple, c'est sa loi. C'est ça, sa structure. Hein. C'est ça qui donne la structure à un peuple. Or, c'est la loi qui domine, ça on ne peut pas nier. C'est la Torah qui domine. Et c'est pour ça que Moïse prend une telle place, une importance si grande, parce que c'est lui qui donne la Torah. Tandis que quand il s'agit du Christ, on ne peut plus dire que c'est la Torah qui domine, on ne peut plus dire que c'est la loi qui domine. Il accomplit. Donc, c'est un lien personnel avec une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et ce lien personnel avec le Christ se fait par le point de vue des vertus de foi, d'espérance et de qualité et de charité. Donc, les vertus théologales prennent une force dans le mystère de l'Église toute nouvelle. Les vertus théologales existent dans l'Ancienne Alliance, mais les vertus théologales ne sont pas vues dans toute leur force, sauf chez les prophètes, sauf chez les pères. Parce qu'on pourrait dire que déjà, chez les patriarches, avant Moïse, les patriarches. Alors, chez les patriarches, on peut dire Abraham, Isaac et Jacob, c'est le point de vue de l'Alliance paternelle. Et on peut dire que c'est la foi, l'espérance et la charité. Les vertus théologales dominent chez les patriarches. Les vertus théologales sont comme, je ne dis pas mises à l'ombre, elles existent, elles sont présentes, mais elles sont moins explicitées. Dès que la loi prend toute sa force, avec la loi, c'est la vertu divine. Tout de suite, immédiatement. Et la reprise des vertus théologales avec le mystère du Christ. Si on veut, là encore, comprendre ce que représente le point de vue des vertus théologales. Et on peut dire qu'à l'intérieur de l'Église, de notre Église, à l'intérieur de l'Église, il y a quelque chose d'analogue avec ce que le peuple d'Israël a vécu. Puisque la conduite de Dieu sur le peuple d'Israël doit nous éclairer sur la conduite de Dieu sur l'Ancien Testament, sur l'Église. Avec l'Ancienne Alliance, c'est très explicite. L'Église, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Mais voyez, il y a quelque chose qui me semble toujours à mettre en parallèle. Si je suis attentif à la conduite de Dieu sur l'Église, on peut dire qu'au point de départ, l'Église, les actes des apôtres, les pères de l'Église, l'Église vit avant tout des vertus théologales. Puis, je ne dis pas que l'Église est embourgeoisée, mais l'Église, on a l'impression qu'à ce moment-là, la morale reprend une force énorme. Et nous assistons, nous, à quelque chose qui est une reprise des vertus théologales. Les trois moments de l'Église, c'est vrai, il y en a plusieurs, hein, mais il y a trois moments très nets. Hein. Il y a trois moments très nets. La petite église des actes des apôtres, la petite église des actes des apôtres, la jeunesse de l'Église, c'est les vertus théologales, c'est net. L'Église est mue par l'Esprit Saint de façon étonnante. Les diacres des actes des apôtres, Philippe comme diacre des actes des apôtres, il est sous la mouvance de l'Esprit. Il est étonnant. C'est beau de voir ça, c'est grand. Donc, il y a dans les actes des apôtres tout cet aspect des vertus théologales qui est très très fort. Puis ensuite, vous voyez, je ne dis pas l'aspect de l'Église qui prend une physionomie nouvelle, c'est toujours la même Église, mais il y a des accents différents. Et vous voyez que peut-être il y a un aspect de l'Église qui doit, par l'institution, durée. Un souci de durée. Ou alors on voit que l'aspect moral, l'aspect d'un humanisme, prend une place énorme. Et vous le voyez, avec le XVIIe siècle, c'est quand même très net. Hein. Le XVIIe siècle, c'est un christianisme très moralisant, qui est beau, qui est grand, hein. Faut pas dire du tout qu'il n'est pas grand, qui est très beau, qui est très grand. Et puis qu'est-ce que nous voyons actuellement avec Vatican II comme une espèce de reprise très très nette des vertus théologales. Et ça me semble être, vous voyez, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, ça me semble être quelque chose d'analogue avec la période des patriarches et la période dernière des prophètes. Comme si l'aspect tout à fait divin des vertus théologales, dans toute leur pureté, étaient très difficiles à se maintenir. Alors il y a comme une espèce d'incarnation de ces vertus théologales, il faut qu'elles s'incarnent, c'est sûr, il faut qu'elles s'incarnent, mais une incarnation des vertus théologales où le levain qui transforme la pâte. Alors vous pouvez mettre l'accent sur le levain ou vous pouvez mettre l'accent sur la pâte transformée, c'est évident. Alors, au début et au terme, on met l'accent sur le levain. Et puis au moment entre deux, j'allais dire, il y a une mise d'accent sur la pâte qui est transformée. Alors à ce moment-là, vous voyez comment les vertus théologales transforment l'homme et donnent à l'homme des vertus morales, une espèce d'humanisme chrétien. Et ensuite, en dernier lieu, qui est comme une dernière flamme, si vous voulez, divine, merveilleuse, des vertus théologales qui reprennent toute leur force, toute leur splendeur. Il faut réfléchir là-dessus, parce que c'est important. Et l'Ancien Testament nous aide beaucoup à comprendre ça. Parce que là, vous avez une marche très très nette de Dieu sur le peuple d'Israël, sur les différents moments, vous voyez. Parce que c'est quand même intéressant de voir que Vatican II nous demande cela. C'est l'appel du Saint-Esprit. Soyez beaucoup plus attentifs à ce que représente cette économie divine qu'on l'était, si vous voulez, avec le temps de la scolastique. On ne voyait pas beaucoup l'économie divine. On voyait les mystères, l'ordre des mystères, et puis c'est tout. Tandis que là, on nous demande cela. Et c'est sans doute pour mieux comprendre l'appel particulier de l'Esprit-Saint sur nous. Alors, je continue, si vous voulez, l'Exode, on va terminer ça rapidement. Vous voyez, chapitre 39. Oui, parce que je passe avant, vous voyez, il y a des... C'est intéressant, il y a un livre de comptes. Voici l'état des comptes de la demeure du témoignage qui fut établi sur l'ordre de Moïse par les soins des Lévites sous la direction d'Itamar, fils d'Aaron, le prêtre. Vous voyez l'assistance. Le premier prêtre, Aaron. Alors on vous donne tous. Total de l'or employé au travail. Pour tout le travail du lieu saint, l'or des offrandes fut de 29 talents et 730 sicles. Hein? Dans les sacristies, on voit tout ça qui reste. Hein, c'est extraordinaire tout ce qui demeure. Le livre des comptes, voulez-vous. Le livre des comptes, il faut bien qu'il y ait un livre de comptes. Ça fait partie de la richesse de l'Église. Hein. Et tout ça est noté. Alors ce qui m'intéresse ici, vous voyez, c'est pour ça que je reprends ce petit passage, parce que ça, je crois que c'est très significatif. Donc, chapitre 39, verset 21. Avant, c'est encore la description de tout ce que nous avions commencé de voir la dernière fois, et que vous pouvez voir les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, en la direction de l'est, au levant. La largeur du parvis était de 50 coudées. Il y avait des tentures de 15 coudées pour un côté, leurs trois colonnes et leurs trois socles pour le second côté. Elle a toujours cette description architecturale. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Ça. Est-ce que vous retrouvez ça dans l'Apocalypse? Alors ne poussons pas du tout, ne poussons pas trop, parce qu'alors on dira Dieu, le grand architecte, hein, vous voyez bien, hein, fondement dans l'écriture, hein, le Dieu, grand architecte, hein, attention, c'est pas ça du tout. C'est l'architecture de la liturgie. La liturgie demande d'être architecturale. N'oubliez jamais ça. Parce que c'est l'art des arts. Et donc elle est architecturale. Elle a quelque chose d'architectural, la liturgie. Et elle demande d'être architecturale. Celui qui a vraiment le sens de la liturgie, c'est ça. Et dans cette architecture, il y a la musique, il y a le chant, mais il y a tout le parvis, il y a tout, les ornements, tout fait partie de la liturgie. Et c'est architectural, c'est-à-dire ça demande un ordre. Et un ordre qui est un ordre voulu par Dieu. On résume un peu l'ordre de l'univers dans l'architecture. Et c'est tout l'ordre de l'univers qui est repris d'un point de vue religieux pour remonter vers Dieu. Oui, la liturgie est cosmique. Et la liturgie implique cet aspect architectural comme il y a une architecture de l'univers. L'univers est architectural. Et bon, la liturgie demande d'être architecturale. Il y a ce point de vue-là qui est impliqué dedans. Alors, ça nous est montré, de façon quelquefois pas très drôle à voir, mais quand même intéressante. Alors, chapitre 39, avec de la pourpre violette, de la pourpre rouge et du cramoisi, ils firent les habits d'apparat pour officier dans le sanctuaire. Ils firent les habits sacrés pour Aaron, ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. C'est pas des habits pour Moïse. C'est des habits pour Aaron. C'est Aaron le prêtre. On ne dit jamais que Moïse est le prêtre. Il est le législateur. Et c'est évident que c'est Moïse qui donne à Aaron son autorité. Donc le prêtre est soumis au législateur. Ils firent l'éphod d'or, de pourpre violette, de pourpre rouge, de cramoisi, de lin fin retors. Ils martelèrent les lames d'or, ils découpèrent des cordons pour faire au milieu de la pourpre violette, au milieu de la pourpre rouge, au milieu du cramoisi, au milieu du lin fin, une œuvre d'artiste. Alors là aussi c'est très intéressant, toujours, je vous l'ai souligné les dernières fois, une œuvre d'artiste, donc une œuvre de beauté, c'est ça que ça veut dire, c'est pas laissé au hasard. Alors, cette première liturgie de Dieu, par rapport à un peuple qui ne sait pas très bien ce que c'est. Alors, toujours, ils les mirent sur les épaulettes de l'éphod, pierre de mémorial pour les fils d'Israël, selon qu'avait commandé Yahvé Moïse. Alors, il y a aussi l'idée du mémorial, hein, qui est très important et qui est au cœur de toute la liturgie. La liturgie, c'est un mémorial. Et ça, je crois qu'on peut le dire. La liturgie est un mémorial, c'est-à-dire la liturgie est là pour rappeler que Dieu, Yahvé, c'est le Sauveur. Bon, la liturgie met tout le peuple d'Israël dans un état de dépendance pour reconnaître que c'est Dieu qui l'a sauvé. Alors ce mémorial qui est présent, vous voyez les quelques dimensions qu'on a sur cette liturgie qui nous est montrée, qui est grande, hein. Il faut essayer de comprendre. Il y a des détails, évidemment, sur les épaulettes qui peuvent nous paraître curieuses, mais c'est regarder l'ensemble. Ils firent le pectoral, œuvre d'artiste, de même façon que les fodes. Donc, œuvre d'artiste. Ainsi, le pectoral ne se déplaçait pas de dessus les fodes, selon qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Tout ça, c'est sur l'ordre de Yahvé à Moïse. Non. Et ça ne s'est pas commandé directement à Aaron. C'est commandé à Aaron par Moïse. Donc le législateur, Moïse, a la haute main, si vous voulez. Si vous... C'est lui qui a la vision. C'est lui le contemplatif. Hein. Tandis qu'on ne dit pas qu'Aaron est contemplatif. Non, non, non. Parce que le sacerdoce de l'ancienne alliance n'est pas contemplatif. Tandis que Moïse est toujours considéré comme le contemplatif. Et les pères de l'Église disaient que Moïse avait eu momentanément la vision béatifique. Et quand les pères de l'Église disent ça, ils veulent montrer que Moïse, c'est vraiment celui qui a un regard sur Dieu unique. Il y a le regard de Dieu, Abraham, c'est sûr, Abraham, et la vision de Mamré, qui est étonnante, qui est une vision contemplative, mais Moïse aussi. Tandis qu'Aaron, le prêtre, non, c'est le liturge, hein, le prêtre, c'est celui qui est pour la liturgie, et avant tout pour la liturgie. On ne voit pas très bien Aaron théologien. Non, ça ne va pas très très bien, c'est quelque chose qui dépasse un peu Aaron. Ils firent le manteau de l'éphod, œuvre de tisserand, tout de pourpre violette. Alors on parle de toute la manière dont le manteau, vous pouvez regarder tous les détails, n'est-ce pas ? Et ceci pour officier selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Ils firent les tuniques de lin fin, œuvre de tisserand, pour Aaron et pour ses fils. Alors là aussi, on voit tout de suite que le sacerdoce se transmet de père en fils. Il y a le fils, il y a le prêtre et les fils de prêtre. Alors les fils de prêtre feront comme leur père. Il y aura une tribu particulière. Le turban de lin fin, les garnitures des bonnets de lin fin, les caleçons de lin en lin fin retors, les ceintures de lin fin retors, de pourvient, et ainsi de suite, selon ce qu'avait commandé Yahvé Moïse. Ils firent la fleur du diadème sacré, d'or pur. Ils écrivirent sur elle une inscription en gravure de sceau, consacrée à Yahvé. C'est la consécration du prêtre. Ils sont consacrés. Et toute cette liturgie montre cette consécration au point religieux. Ils placèrent sur elle un cordon de pourpre violette pour la mettre sur le turban par-dessus, selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Alors fut achevé tout le travail de la demeure, de la tente, de la rencontre. Toute cette grande liturgie pour montrer la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu, la tente, hein, la demeure et la tente de la rencontre. C'est la présence de Dieu. Alors voyez les diverses dimensions, hein, notez les diverses dimensions de ce que représente cette liturgie première, qui est une liturgie révélée. À ce point de vue-là, pour ça, c'est merveilleux. Hein, parce que quand vous avez une liturgie monastique, elle n'est pas révélée. Il y a des choses qui peuvent venir du Saint-Esprit et d'autres qui peuvent venir tout simplement de l'opinion du chantre ou du liturgiste. Il a pillé à droite et à gauche et puis il a fait sa petite synthèse. Hein, et la synthèse n'est pas du Saint-Esprit. Elle est tout simplement une œuvre humaine. Il faut faire ça. De fait, Dieu nous demande ça. Hein. Dieu nous demande humblement de faire notre liturgie. Il demande ça humblement. Il ne faut pas dire, moi j'attends d'avoir la révélation pour la liturgie. Non, non, non. Il nous demande ça. Parce que de fait, nous avons une liturgie dans l'ordre de l'amitié. Tandis que la première liturgie est une liturgie des serviteurs de Dieu. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis. Notre liturgie est une liturgie d'amitié. Parce que c'est une liturgie, justement, contemplative et de l'amitié. Tandis qu'au contraire, ça, c'est la liturgie des serviteurs. Or, le propre du serviteur, c'est celui qui reçoit tout directement. Il reçoit des ordres. Les fils d'Israël avaient fait en tout selon ce qu'avait commandé Yahvé Moïse. Ainsi avaient-ils fait. Ils apportèrent la demeure à Moïse. La tente et tout son mobilier, ses agrafes, ses planches, et ainsi de suite. Hein. L'arche du témoignage, ses barres et le propitiatoire. La table avec tous ses accessoires et le pain de la face. Le candélabre pur avec ses lampes, les lampes à y disposer. Tous ses accessoires et l'huile du luminaire, l'autel d'or, l'huile, et ainsi de suite. Donc tout fut apporté à Moïse, selon tout ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse, ainsi les fils d'Israël avaient exécuté tout l'ouvrage. Moïse vit tout le travail, et voici qu'il l'avait exécuté selon ce qu'avait commandé Yahvé. Ainsi avait-il fait, Moïse les bénit. Voilà à la manière dont Moïse remercie. C'est très beau, c'est la bénédiction de Moïse. Yahvé parla à Moïse en ces termes. chapitre 40. Le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, la tente de la rencontre. Tu y mettras l'arche du témoignage et tu protégeras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu disposeras sa garniture. Tu apporteras le candélabre et tu feras monter ses lampes. Tu placeras l'autel d'or pour l'encens devant l'arche du témoignage. Et tu mettras le rideau à l'entrée de la demeure. Tu placeras l'autel de l'Holocauste devant l'entrée de la demeure, de la tente de la rencontre. Tu placeras le bassin entre la tente de la rencontre et l'autel. Et tu y mettras de l'eau. Tu mettras le parvis tout autour et tu placeras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile de l'onction, tu oindras la demeure ainsi que tout ce qui se trouve. Tu la consacreras. Consécration du temple, consécration des églises, oui, première consécration. C'est Dieu qui le demande, hein, si je crois ce qu'il dit dans l'Écriture. Et c'est Moïse qui doit exécuter ça. Tu prendras l'huile de l'onction et tu oindras la demeure ainsi que tout ce qui se trouve. Tu la consacreras ainsi que tout son mobilier et elle sera sainte. Tu oindras l'autel de l'Holocauste et tous ses accessoires. Tu consacreras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras le bassin et son support et tu le consacreras. Donc tout est consacré en vue de la sainteté. Liturgie de la manifestation de la sainteté de Dieu. Liturgie de la présence et de la manifestation de la sainteté de Dieu. Tu feras approcher Aaron et ses fils de l'entrée de la tente de la rencontre. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des habits sacrés. Tu l'oindras et le consacreras afin qu'il exerce pour moi le sacerdoce. Alors vous voyez, c'est intéressant de voir aussi, hein, que ce sacerdoce, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras de tuniques, tu les oindras comme tu auras oint leur père, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Cela se fera pour que l'onction leur confère le sacerdoce à jamais, dans toute leur génération. Une promesse de Dieu que ces premiers dans le sacerdoce soient consacrés et que tous ceux qui viennent après soient consacrés. Alors, vous voyez bien la finalité du sacerdoce. Hein, c'est pour moi, dit le Seigneur. Hein, le prêtre est premièrement l'homme de Dieu. Pas premièrement l'homme du peuple. Il est premièrement l'homme de Dieu. C'est déjà vrai pour le sacerdoce lévitique. C'est déjà vrai pour le sacerdoce religieux, a fortiori quand il s'agit du sacerdoce du Christ. Il est l'homme de Dieu, c'est pour moi. Moïse fit en tout cela ce qu'avait commandé Yahvé. Ainsi fit-il. Ce fut le premier mois de la seconde année, le premier du mois que fut dressée la demeure. Moïse dressa la demeure, il en plaça les socles, il en mit les planches, il en plaça les traverses, il en dressa les colonnes, il déploya la tente sur la demeure et il mit sur elle, en haut, la couverture de la tente, selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Il fit et plaça dans l'arche le témoignage, mit les barres contre l'arche et plaça le propitiatoire sur l'arche, par-dessus. Il introduisit l'arche dans la demeure et mit le voile du rideau, protégeant ainsi l'arche du témoignage, selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Il plaça la table dans la tente de la rencontre, sur le flanc de la demeure, vers le nord, en dehors du voile, et disposa sur elle une garniture de pain devant Yahvé, selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Il mit le candélabre dans la tente de la rencontre, face à la table, sur le flanc de la demeure, vers le sud. Il fit monter les lampes devant Yahvé, selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Il mit l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et dessus, il fit fumer l'encens aromatique, selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse. Il mit le rideau à l'entrée de la demeure, et l'autel de l'Holocauste. Il le mit à l'entrée de la demeure de la tente de la rencontre, et il y offrit holocauste et oblation, selon ce qu'avait commandé Yahvé à Moïse.